Alors, la géographie et l'analyse des épidémies, je ne vais pas vous faire une histoire en fait de la pensée géographique sur les épidémies, mais simplement dire qu'il y avait grosso modo il y a trois grands thèmes ou trois grandes entrées des premiers travaux. Les premiers travaux, c'est le début du XXe siècle. Et les premiers ancrages, ce sont des ancrages, on va dire, tropicaux. C'est l'analyse de certaines pathologies avec une forme de déterminisme qui va apparaître, articulant en gros certains modes de vie, certains lieux, certaines zones climatiques comme étant plus propices à l'émergence de certaines épidémies. Et le tournant, c'est les années 1960, avec un gros travail qui n'est pas spécialement ancré dans les travaux des épidémies, mais qui est un travail par un géographe suédois qui s'appelle Thorsten Egerstrand, donc qui a travaillé en fait, qui a proposé une modélisation de la diffusion des innovations. Et à partir de ces travaux, les géographes vont s'approprier l'objet épidémie, et vous allez avoir toute une série en fait de travaux qui vont apparaître avec des approches qui sont des approches plutôt quantitatives. Donc l'épidémie va devenir un objet d'étude. Et puis depuis 20 ans, 25 ans, autour de ces travaux, l'enjeu est d'essayer d'introduire un peu plus l'analyse des pratiques, d'articuler un peu plus ces analyses très quantitatives. Des analyses très quantitatives sur la temporalité de l'épidémie, sur les différentes vagues d'impact et les impacts de ces vagues sur des épidémies, c'est d'articuler en fait la pratique à partir des mobilités, des comportements. Et puis également, un objet qui avait finalement mis un peu de côté, c'est la ville. Depuis 20 ans, la ville va devenir un objet que le géographe qui travaille ou que les géographes qui travaillent sur les épidémies va interroger. Alors pourquoi est-ce qu'il interroge? Parce qu'à la fois la ville c'est un fort lieu forte intensité et de forte interaction, et puis surtout c'est un lieu dans lequel vous avez eu la réémergence de nouvelles maladies. Soit la réémergence, on pense par exemple au choléra qui va réapparaître dans les années 1990 au Pérou, qui va se globaliser avec en fait qui est une souche issue probablement d'une souche indienne qui a muté avec d'autres sources. Voilà. Et les villes vont être un petit peu des espèces de nœuds dans ce réseau de circulation en fait des épidémies, vont être des nœuds qui vont être fortement étudiés. Voilà. Alors, ça, c'était un premier point d'essayer d'ancrer un peu cette question de la ville et des épidémies et qu'elle est finalement relativement récente, je dirais, à 20-25 ans. Ensuite, deuxième point, qui vont être des points, on va dire, plutôt conceptuels, même si je ne vais pas trop aller trop loin sur ces questions-là, c'est d'essayer de voir, il y a deux concepts centraux qui nous intéressent quand on travaille en fait en géographie et sur les épidémies. Il y a d'abord le concept de diffusion. Alors j'ai repris une définition assez simple d'un dictionnaire de géographie, processus qui concourt aux déplacements dans l'espace et dans le temps et aux effets en retour que ces déplacements engendrent. Alors, dans les réflexions sur la diffusion, les géographes ont relevé en fait trois modèles un petit peu de diffusion des épidémies. Donc un premier modèle qui est un modèle par contact, donc c'est l'effet de proximité qui va avoir un impact sur la propagation, enfin, pardon, sur la diffusion de l'épidémie. Deuxièmement, la diffusion hiérarchique, ce qu'on appelle une diffusion hiérarchique, c'est-à-dire que c'est souvent les poids, les grandes villes, par exemple un réseau urbain où les grandes villes vont être dans un premier temps touchées, puis les villes de rang plus petits, etc., etc., jusqu'au village. Donc un processus où ce sont finalement des canaux de transmission entre des pôles et des masses de population qui vont jouer un rôle dans le processus de circulation. Pardon, de diffusion, excusez-moi. Et puis, plus rare, cette diffusion par saut, où finalement, il n'y a pas de canaux de transmission. C'est un petit peu des étapes de diffusion dans le temps, étapes qui peuvent se faire finalement par hasard, où on va avoir une souche qui va se développer. Alors, c'est le cas de ce qu'on appelle les hyperendémies. Une hyperendémie qui, si vous connaissez un peu la région, même si c'est de l'autre côté de la Seine, l'hyperendémie de méningite à méningocoque B, de la région de Dieppe, qui est une espèce de petite épidémie qui s'est développée dans les années 90, qui a duré à peu près 5, 6, 7 ans. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on retrouve des cas de cette même souche dans le Nord-Pas-de-Calais et également en Norvège. Voilà. Donc, des espèces de micro-épidémies, ce que les épidémiologistes appellent ça plutôt des hyperendémies, parce que ça, il y a des effets importants, des espèces de pics de cas, et puis tout d'un coup, ça retombe. Et donc ça, c'est peut-être probablement quelque chose qui pourrait être associé à ce modèle de diffusion par saut. Et puis, vous avez cette deuxième notion qui est assez centrale en fait dans les travaux, c'est la notion de circulation. Alors pareil, je vais prendre une définition assez plutôt simple de cette notion de circulation. Mouvement de ce qui se déplace, mouvement entre ce qui est un émetteur, ce qui va être un émetteur et un récepteur. Alors cet émetteur, il peut être de n'importe quelle nature, mais dans le cas des épidémies, c'est plutôt le vecteur. Voilà, le vecteur. Et ce qui va nous intéresser plutôt en géographe, c'est plutôt la question des pratiques. Et la pratique, comment finalement, entre un point A et un point B, qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement une épidémie apparaisse en un lieu A et arrive en un lieu B? Est-ce que c'est lié à certaines formes de circulation? Est-ce que c'est lié à certaines pratiques? Est-ce que c'est lié à certains usages de l'espace, etc., etc. Alors, ça c'est le deuxième point, c'est autour de deux notions. Et puis notre clé de lecture, pour faire simple, c'est deux clés de lecture importantes, c'est la question des distances, est-ce que c'est proche, est-ce que c'est loin? Des échelles, est-ce que c'est connecté, est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est ouvert, est-ce que c'est relié, est-ce que ce n'est pas relié? Je fais vraiment de la géographie un peu, on va dire, pas de base, parce que c'est pas une géographie de base, mais d'essayer de poser en fait des notions que je vais reprendre petit à petit dans les exemples que je vais prendre, et pas faire trop de complexité, puisqu'on m'a dit que vous étiez plutôt un public plutôt d'historien, et qu'il n'était pas nécessaire d'aller trop loin dans le processus d'analyse géographique. Finalement, moi, je vais pas traiter d'un seul exemple. J'ai fait le choix plutôt de travailler sur trois exemples que j'ai travaillés avec d'autres collègues et d'essayer de voir comment, finalement, est-ce qu'on peut interroger, enfin, comment la géographie peut interroger cette question des épidémies. Alors, un premier exemple que je vais prendre, c'est d'essayer d'analyser un peu la dynamique spatiale, en fait, d'une épidémie. Et je vais prendre un exemple, je travaille avec des historiens sur l'épidémie de choléra morbus de 1832, dans l'est de la Normandie, donc en actuelle Haute-Normandie. Et on avait fait un travail de collecte d'archives et on a analysé à travers une lecture qui, vous allez voir, une lecture plutôt d'analyse spatiale, c'est-à-dire assez quantitative, analyser un petit peu la diffusion de l'épidémie en 1832. Donc ça, c'est un premier exemple, donc c'est plutôt traité de cette question de la diffusion. Ensuite, un deuxième exemple autour de la question du changement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut passer finalement d'une situation où on a peu de cas à une situation où on a beaucoup plus de cas. Comment finalement on peut passer d'une situation d'une concentration du nombre d'individus, des personnes touchées par une épidémie, à un stade où on est sur une propagation, une diffusion extrêmement, une expansion très importante en fait de l'épidémie. Donc c'est ce moment un peu de changement, cette phase de transition entre une situation d'un petit nombre de cas à une expansion en fait de cette épidémie dans l'espace que je vais essayer de traiter à travers un exemple qui est issu en fait de mon terrain de thèse, puisque j'ai travaillé en fait au milieu des années 1990 sur la diffusion du sida en Inde. Et j'ai pris un exemple qui est un éclairage à Bombay autour d'un changement en fait de caractéristiques de diffusion dans cette ville. Et puis un troisième exemple, toutes les épidémies, on parlait tout à l'heure du film Contagion, donc je l'ai vu il y a quelques semaines, et il y a bien effectivement ces trois moments ou ces trois éléments dans le film. On va retrouver un peu les dynamiques, un peu les informations, comment ça circule, comment ça se propage. On va retrouver aussi la période de changement un peu qui est de dire voilà, il y a quelques cas, puis tout d'un coup il y a une augmentation très importante des cas. Et puis il y a aussi le rôle très important des médias et aussi des controverses qui vont tourner autour de la vaccination, autour de quels médicaments utiliser pour traiter. Il y a ce fameux, je crois qu'il y a ce journaliste qui est interprété par Jude Law qui est là pour animer un petit peu et pour développer un peu la rumeur et pour contester finalement la mise en place en fait de la politique sanitaire par les services publics ou par les municipalités. Donc c'est cette question plutôt des représentations et comment les représentations on va dire, dans une épidémie, quel est le rôle des représentations. Et je prendrai un exemple autour d'un travail qu'on termine avec d'autres géographes sur l'utilisation, en fait, la campagne de vaccination, enfin l'épidémie de grippe A H1N1 de 2009 et la campagne de vaccination et de voir comment elle a été traitée dans la presse francophone et dans la presse anglophone. Voilà. Donc je travaille avec des linguistes, on a travaillé avec des linguistes, donc pour essayer en fait d'analyser un petit peu qu'est-ce qui est dit, comment ça a circulé et également quelles sont les représentations. Donc ça sera une lecture évidemment un peu spatiale. Quels sont les lieux qui sont relevés ou identifiés en fait dans les textes. Donc, premier exemple, l'espace de l'épidémie. Alors, d'une certaine manière, on se retrouve dans des conditions assez comparables de celles de la peste. Je vais mettre quand même des limites, dans la mesure où, en 1832, le choléra, l'étiologie du choléra, les causes et comment est-ce qu'on contracte le choléra, c'est inconnu. On est, à cette période, en fait, dans deux grands champs d'interprétation en fait, des maladies. Alors, c'est plutôt les thèses aéristes qui vont dominer, où on considère que ce sont les exhalaisons de la terre, de l'air, qui sont, donc ce sont les conditions locales qui vont être favorables en fait à l'émergence ou au développement en fait de certaines maladies. Et puis il y a quand même, on retrouve cette espèce de principe de réalité, oui, d'une certaine façon, ou finalement de dire que grosso modo, oui, mais c'est quand même un peu bizarre. Il n'y a pas que ces éléments-là, il n'y a pas que l'air, et probablement il y a aussi la question des contacts. Donc on évolue, on est un peu dans une phase un peu transitoire entre ce qui va ensuite porter l'hygiénisme, et puis ensuite les travaux de Pasteur. Il y a cette interrogation sur finalement, on va retrouver à cette époque un peu ces deux réflexions mêlées un peu dans les écrits, et en particulier dans un travail qui est porté par un médecin qui est médecin-chef, je crois, de l'Hôtel Dieu, qui est le docteur Ellis, médecin-chef de l'Hôtel Dieu en 1832 à Rouen, qui s'appelle le docteur Ellis. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. On a travaillé, en fait, sur une collecte. Donc, c'est une collecte, en fait, qui a été réalisé dans les différentes archives, que ce soit des archives régionales et municipales, archives départementales, archives régionales et archives municipales, qui étaient destinées en fait à relever les cas de choléra. Au départ, on voulait travailler sur une période beaucoup plus longue, c'est-à-dire les différentes vagues de choléra qui avaient été celles qu'on a pu retrouver au cours du XIXe siècle. Mais en fait, les seules sources qui étaient à peu près complètes, et c'est celles de 1832. Alors, cette matrice, en fait, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle représente, on a essayé dans un premier temps, de reconstruire une espèce de matrice qui lie la présence du choléra par semaine à la localité. Et on avait deux hypothèses. La première hypothèse, qui était celle d'une surreprésentation de la mortalité de l'épidémie dans les pôles urbains de la région. Donc c'était ça notre première hypothèse. La deuxième hypothèse, que l'on voulait aussi essayer de tester, c'était de dire qu'il y avait peut-être une double dynamique. On sait que le premier cas en France a été, je crois que c'est mars 1832, Paris, et à partir de là, c'est l'alerte qui va se mettre en place et une situation et chaque ville, chaque commune va essayer de développer et va mettre en place des dispositifs de protection. Mais l'alerte, elle avait été donnée d'une certaine manière un petit peu avant, dès 1831, puisque l'Angleterre va être touchée, ainsi que les pays plus au nord de la France. Donc ce qui nous intéressait aussi, c'est que du fait de la proximité et des échanges qui existaient entre les part et d'autre de la Manche, l'hypothèse était de dire qu'il y avait peut-être eu plusieurs vagues, une double espèce de double dynamique qui pouvait se être présente dans l'analyse des cas qu'on pouvait faire ici. Donc vous avez les semaines, entre avril et novembre 1832, donc vous avez le pourcentage de municipalités nouvellement touchées par la maladie. On a un premier pic, en fait, de communes touchées, un premier groupe de communes touchées, en fait, dès le mois d'avril, et ensuite on a un deuxième pic à partir du mois de juin 1832. Donc ces deux éléments on a posé un peu l'hypothèse que est-ce que c'était lié d'abord à une espèce de rattrapage, chaque commune allait rattraper en fait les données. Or, si après quelques vérifications, il semblerait que non, même s'il y a probablement eu en fait une espèce d'alerte, des choses qui n'avaient pas été posées, il fallait petit à petit en fait mettre en place le dispositif d'enregistrement, mettre en place en fait l'aide aux malades, mais il semble plutôt qu'il y ait effectivement peut-être une espèce de double temporalité dans l'épidémie, et que cette double temporalité, elle peut aussi se présenter d'un point de vue spatial. Je vais y revenir. Alors, cette double temporalité, il semble, si on analyse, alors, vous voyez, la cartographie est ici, c'est une cartographie qu'on va appeler par lissage, dans la mesure où on avait des informations en fait par commune. Il nous a semblé intéressant, et probablement avec des erreurs ou des éléments manquants, il nous intéresse. Donc on aurait une double. Oui, jaune clair dans les vallées, ouais, c'est ça, dans les vallées, et avec des espaces qui semblent peu touchés, qui sont en fait la partie Bray, la partie Caux, en fait ces espaces, donc qui sembleraient en fait deux systèmes, il y aurait peut-être deux systèmes, un système plutôt littoral, qui correspondait plutôt à une deuxième vague, une épidémie qui viendrait peut-être d'Angleterre ou qui aurait été transmise via en fait le littoral, soit via l'Angleterre, mais aussi par le littoral. Et le nord de la France, le Pas-de-Calais a été touché assez rapidement aussi, et un deuxième système qui serait plutôt un système de l'axe Seine et qui serait peut-être lié à une première vague. Alors tout ça reste avec des points d'interrogation, mais en tout cas il y a probablement deux systèmes spatiaux sensiblement différents, un système spatial avec une hiérarchie urbaine peut-être un peu plus équilibrée au niveau du littoral. Système équilibré avec des villes, Dieppe, Fécamp, un réseau urbain probablement avec des écarts en termes de population plutôt moins importants, donc un peu plus continu. Et puis également toute la vallée de la Seine avec les grands pôles urbains, Le Havre et Rouen. Et puis toutes ces vallées textiles de l'époque, Ostrobert et Cailly, qui semblent aussi fortement touchées. Donc au regard de cette carte, donc qui est issue en fait des données recueillies dans les différents... dans les différents services d'archives, il semblerait effectivement que cette, non seulement donc qu'il y aurait deux systèmes, un système beaucoup, un peu plus littoral, peut-être plus récent dans la dynamique de l'épidémie, et un système qui est un système de diffusion plutôt de l'axe Seine, hein, qui est probablement lié aussi à certaines modalités de circulation des populations, et aussi lié à des groupes ou à des densités ou à des regroupements de certaines activités. Et puis entre les deux, des espaces probablement moins touchés, qui sont ces espaces un peu assez clos également du point de vue des circulations à l'époque, le pays de Caux, peut-être un peu moins pour le pays de Bray, puisque avec une forte connexion quand même avec une plus forte connexion avec la vallée de la Seine. Et donc cette carte, elle semblerait montrer le rôle important en fait des villes. Voilà, les villes comme pôle. Comme pôle important de concentration des cas de choléra morbus. Alors, si on essaie de regarder, de voir si on peut essayer de mesurer un peu cette hypothèse, et donc si on met en perspective la taille de la commune, la durée de l'épidémie et la date de relevé des premiers cas, en fait, on a trois éléments qui peuvent être notés. Le premier, c'est que les communes les plus importantes en nombre d'habitants ont connu en moyenne la plus longue durée de relevé ou de circulation de la bactérie. Plus les villes ont un nombre important d'habitants, plus la période finalement, la durée en fait de l'épidémie semble avoir été importante. Deuxièmement, et toujours en moyenne, le relevé des premiers cas a été effectué dans un premier temps dans les communes les plus importantes. Donc, ce sont d'abord les grandes villes qui ont recueilli, qui ont enregistré en fait des cas. Et troisièmement, les communes qui ont eu les plus longues durées de l'épidémie sont aussi celles dans lesquelles les premiers cas ont été relevés. Donc, si effectivement on analyse et on essaie d'identifier, de donner quelques éléments d'analyse, on se rend compte que finalement, il semblerait qu'il y a une espèce de diffusion hiérarchique. Si je reprends le modèle qui a été présenté en introduction. Mais c'est quelque chose qui nous satisfaisait pas complètement parce que on a du mal à savoir, on ne sait pas si on a eu beaucoup de mal à savoir en raison d'une part parce que les sources, bon, les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale on pose effectivement des gros problèmes dans l'utilisation des sources en Haute-Normandie. Alors, est-ce que c'est un problème, une diffusion hiérarchique ou est-ce que c'est un meilleur relevé des cas dans les villes? Alors, si on prend l'hypothèse justement que ce sont les villes qui ont eu le meilleur enregistrement en fait des cas, on peut étudier la ville de Rouen. Et alors, on est parti finalement d'une carte qui est une topographie donc du médecin de l'Hôtel Dieu dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est le docteur Ellis, donc qui a publié, je n'ai plus le titre en tête, en fait une topographie médicale. Non, pardon, qui s'appelle Souvenir du choléra de Rouen en 1832 et qui fait un bilan un peu de l'action qui a été conduite dans la ville Et il a associé en fait, à la fin de son ouvrage, un plan de la ville de Rouen où il repère, alors de manière différente, c'est intéressant du point de vue de l'histoire, de la cartographie et des manières dont on représente les informations, à la fois en fait les concentrations de cas, même s'il les définit pas, par des bandes rouges, des traits un peu des épaisseurs, et puis des cas un peu isolés, il les représente par des points. Voilà. Donc deux manières d'analyser. Alors, son interprétation de l'épidémie, elle est double. On va retrouver en fait les deux grandes théories qui sont en train de et qui vont s'affronter petit à petit et qui vont conduire en fait à l'émergence en fait de d'autres travaux. Donc, quand il s'agit en fait, et ce qui est intéressant, c'est que Ellis parle pas de la même façon en fait de l'épidémie quand elle est à l'intérieur de Rouen et quand elle est à l'extérieur de Rouen. Quand il parle du choléra à Rouen, Ellis en fait fait une interprétation qui est associée à la théorie des miasmes, la théorie aériste, qui font des conditions locales, que ce soit l'air, la terre, les facteurs favorables au développement de la maladie. Par contre, quand il parle de la marche du choléra, c'est-à-dire comment le choléra est arrivé en Normandie, et voire d'ailleurs, et quelle est l'origine de l'introduction de la maladie à Rouen, en fait, il développe une thèse qui pourrait être qualifié de contagionniste, c'est-à-dire de proche en proche. Donc il y a une espèce de changement à partir d'un moment donné, et on va retrouver ce débat-là. Moreau de Jonnès, pardon, a été un médecin qui a été un des premiers à travailler sur cette question-là. Il a fait tout un travail d'analyse. Il est allé dans l'Empire des Indes pour essayer de travailler avec des médecins anglais, pour essayer de voir un peu les causes de la maladie et d'analyser. Et on va retrouver à peu près cette même lecture, c'est-à-dire que quand l'épidémie est hors du pays, c'est une thèse contagionniste qui est mise en valeur. Par contre, quand on est à l'intérieur du pays, quand le choléra arrive en France, ou quand elle arrive ici à Rouen avec Ellis, c'est la thèse aériste qui va reprendre le dessus. Alors, qu'est-ce que nous avons fait avec ce travail? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé, ce qu'il faut bien revenir sur le fait que Ellis ne connaissait pas les causes de la maladie. Donc, le choléra, c'est une bactérie On contracte le choléra. Aujourd'hui, on sait qu'on contracte le choléra en buvant de l'eau ou mangeant des aliments infectés par la bactérie. Or, à l'époque, ces causes-là n'étaient pas identifiées. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la maladie se transmet par de l'eau contaminée, par des selles humaines, mais elle peut aussi être transmise par l'ingestion d'aliments contaminés. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a. Alors, je ne vous ai pas présenté le document. Si ce que j'ai présenté ici, en fait, c'est la carte. La localisation qui a été croisée avec d'autres sources d'informations, il y avait des sources d'informations qui existaient auprès des dans les préfectures, il y avait aussi des relevés qui avaient été faits sur la ville de Rouen. Donc on a essayé de croiser en fait ces différentes sources d'informations, à la fois les documents d'Hélice et puis toutes les autres sources qu'on avait pu récupérer, et on a construit une carte qui est une densité de cas observés. Donc on va retrouver ici en gros la grande opposition de l'époque, qui est l'opposition ouest-est entre les quartiers pauvres, si vous connaissez Rouen, c'est les quartiers de la Croix-de-Pierre, c'est les quartiers du vieux centre historique, et puis les quartiers de l'époque qui étaient les quartiers plutôt bourgeois de la partie ouest. Et donc on a construit une espèce de base de données à travers des logiciels de systèmes d'information géographique. On a croisé plusieurs couches. On a essayé de relever à la fois le tracé des cours d'eau. Aujourd'hui, certains sont endigués, en particulier par exemple le Robec a été endigué. Les points d'eau, les espaces verts. Et puis, on avait essayé de croiser aussi avec des données sociales. Alors, croiser des données sociales, c'est un peu compliqué, surtout quand on travaille sur des archives. Alors, il y avait des travaux qui avaient été faits sur la mutation des espaces sociaux à Rouen à l'époque moderne par un monsieur Bardet. Et il nous avait permis, en fait, on avait une cartographie qui était une cartographie relativement minutieuse, qui essayait de mesurer les niveaux socio-économiques, en particulier à partir de la valeur locative et des dépenses de bienfaisance des paroisses de la ville. Donc on a essayé, en fait, de reconstruire à partir de ces connaissances actuelles, et puis effectivement des sources d'archives qui permettaient d'analyser un petit peu les inégalités sociales dans la ville. Et donc, on a mis en évidence une différenciation assez nette entre les quartiers ouest et les quartiers est de la ville. Ceux qui avaient les dépenses de bienfaisance les plus importantes, qui étaient plutôt ces quartiers-ci, et puis les quartiers qui avaient des valeurs locatives un peu plus élevées, qui étaient ces quartiers-là. Et on se rend compte que les plus fortes densités de choléra se situent en fait dans les quartiers qui étaient les quartiers les plus pauvres, qui étaient aussi les quartiers de l'industrie textile. La vallée, une partie de l'activité textile était, était dans cette vallée du, une partie de la, enfin, autour du Rebec. Et puis également des espaces de relégation des populations les plus pauvres. Les bienfaisances des paroisses, elles étaient plus importantes en fait dans cette partie-là. Donc un espace de relégation, des espaces plutôt insalubres également, assez vétustes. Ce qui est intéressant, si on met en perspective cette lecture contemporaine avec en fonction des connaissances que l'on, dont on dispose sur l'épidémie, et puis la lecture de Ellis. En fait, Ellis, finalement, d'une certaine manière, avait analysé les concentrations en fait des populations. Il avait permis de localiser, mais son interprétation était fausse. C'était une interprétation aérienne, c'est-à-dire que c'était grosso modo les conditions qui étaient les conditions de l'air, les conditions de la terre qui étaient favorables à l'émergence de l'épidémie. Mais d'une certaine manière, à partir de ces données-là, il avait été possible en fait, il est possible de reconstruire un petit peu avec une analyse a posteriori en fait des espaces qui étaient touchés par l'épidémie. Deuxième exemple sur les conditions du changement de l'épidémie. Et là, je vais prendre l'exemple de l'épidémie de sida en Inde. Alors, l'Inde dans les années 90, le sida, c'est quelque chose d'assez nouveau en Inde. Les premiers cas ont été relevés en 1984, le premier cas a été relevé en 1986, et très vite, le gouvernement indien va dire que de toute façon, l'épidémie, comme généralement dans toute épidémie, l'épidémie ne peut pas toucher l'Inde, ne peut pas toucher les populations indiennes, et que les causes, en fait, de cette épidémie sont des causes extérieures. En Inde, ça a été, c'était probable, c'était les travailleurs musulmans ou c'était les étrangers. Je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage de Paul Farmer, où Farmer qui dit que dans l'épidémie de sida à Haïti, les Haïtiens ont développé une espèce de thèse comme quoi c'était les agents de la CIA qui avaient créé un nouveau virus pour se débarrasser des Haïtiens. Voilà. Donc il y a une espèce de dynamique qui s'enclenche autour au début de l'épidémie, et l'Inde n'a pas échappé à cela. Alors, il a fallu mettre en place très rapidement, en fait, un réseau de surveillance. Et ce sont d'abord certaines villes. Alors, ce réseau de surveillance qui a été financé à la fois par le gouvernement indien, mais aussi par les grands organismes comme l'OMS ou la Banque mondiale, qui ont aidé, en fait, au développement d'un réseau sentinelle de surveillance, ça s'appelait comme ça, à partir des années, à la fin des années 80, au début des années 90. Et certaines villes ont été beaucoup plus touchées. Pardon, ont accueilli ces réseaux de surveillance et ont aussi été beaucoup plus favorisés du point de vue des investissements pour pouvoir surveiller, pour mettre en place en fait une politique à l'égard de l'épidémie. Il y a deux États qui ont été très dans lesquels il y a eu beaucoup d'investissements, c'est l'État du Maharashtra, donc dans lequel Bombay est la capitale, et l'État en fait du Tamil Nadu où Madras est la capitale. Donc des taux de séropositivité étaient très élevés. Et également un système de santé qui était capable de s'adapter aussi à cette nouvelle maladie. Parce que dans la mise en place, il fallait des systèmes de soins qui ne sont pas complètement déficients. Il fallait aussi, pour pouvoir développer, enfin, des investissements, il fallait aussi des structures qui pouvaient s'adapter aussi, finalement, à une gouvernance un peu globale, à savoir avec des financements qui pouvaient être des financements un peu privés, des financements un peu publics. Et Bombay et Madras étaient tout à fait, je dirais, prêt pour accueillir ce type d'investissement et développer. Donc il y a eu un réseau de surveillance qui s'est mis en place à Bombay. Donc vous avez ici en fait ce qu'on appelle le Grand Bombay. Donc les îles d'origine, le vieux centre. Au sud, vous avez donc qui était le quartier. Voilà, bon, au sud, le quartier britannique qui s'est développé, le quartier en fait de l'administration coloniale. Et puis autour de ce premier noyau. Une série de quartiers dont je vais parler, qui ont été créés en fait au moment du développement de l'industrie textile en fait à Bombay, et l'essentiel en fait de l'urbanisation jusqu'au milieu du XXe siècle est une urbanisation en fait qui porte sur la partie sud, l'espèce de pointe que vous voyez, la péninsule, et ce n'est qu'après on va dire après l'indépendance, que les parties qui sont aujourd'hui les plus urbaines, qui aujourd'hui connaissent des fortes expansions en fait urbaines dans l'espace, ce sont ces quartiers tout au nord qui ont connu une très forte croissance à partir des années 70, puis 80, puis 90. Voilà. L'idée, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, c'était de mesurer, donc il y a toute une collecte en fait de données qui a été réalisée autour à la fois des collectes de cas de personnes sur les séropositivités. Et puis, dans la mesure où c'était une épidémie un peu nouvelle, et probablement une épidémie qui était assez honteuse et qu'il fallait cacher, il y avait toute une série en fait de cas qui n'étaient pas identifiés. Cas pas identifié parce que dans les registres de la municipalité, eh bien, on ne mettait pas on meurt du sida, mais plutôt on va mourir d'une maladie opportuniste, on va mourir d'un cancer, on va mourir d'une pneumonie. Et donc il y avait toute une série en fait d'indicateurs qu'il fallait prendre en complément de cette collecte sur la séropositivité ou sur les cas de sida, qu'il a fallu prendre en compte en essayant de mesurer un peu toutes les maladies qu'on pouvait qualifier des maladies opportunistes. Et en particulier, il y avait certaines maladies opportunistes qui sont étroitement liées au sida, c'est en particulier la tuberculose, les hépatites B, et puis certains types de cancers. Donc, j'ai réalisé à l'époque une collecte dans les services, auprès des services municipaux de la ville qui enregistraient en fait les décès, et j'ai collecté en fait les informations sur un registre de plusieurs types de maladies. Et donc, j'ai croisé en fait à la fois les localisations qui portaient sur les cas de séropositivité et les cas de sida, et les changements des parts de maladies qui étaient en synergie avec le sida. Et on se rend compte que, grosso modo, entre 86 et 94, on a dans certains quartiers, alors c'est ce qu'on appelle ici des wards à Bombay, ça correspond en gros à des arrondissements, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'arrondissement. On a des croissances considérables de certaines pathologies, en particulier la tuberculose et les hépatites B. Donc, qui pourraient être effectivement des symptômes très intéressants du point de vue en fait d'une épidémisation par le VIH dans la ville entre 86 et 94. Alors, il y a d'autres séries de cartes sur lesquelles on peut regarder, on va dire, année par année, voire mois par mois, et on se rend compte qu'on a aussi des périodes de changement. Il y a une période de changement assez intéressante en matière de l'évolution du nombre total des décès, de la part des types de décès, à partir des maladies liées qui pourraient être en synergie avec le sida, c'est le tournant des années 90, 91, 92, 93. Il y a un changement réel du point de vue, en fait, de la variation. Alors, à partir de là, j'ai essayé de m'interroger finalement pourquoi est-ce qu'on est passé d'une phase qui était relativement concentrée, et cette phase de concentration, c'est en grosso modo une partie des quartiers que vous avez ici. Quartiers du Sud, particulièrement les quartiers anciens issus de la vague d'industrialisation liée à l'industrie textile. Et puis, en 94, on a un renforcement dans ces quartiers-là. Et puis, également, une expansion vers des quartiers beaucoup plus au nord, en fait, de la ville. Alors, l'idée, c'était d'essayer de s'interroger pourquoi est-ce qu'on est passé finalement d'une phase relativement concentrée, même si c'était difficile à partir des données identifiées, de mesurer, on va dire, de manière sûre cette concentration, mais en tout cas une épidémie qui était probablement relativement concentrée dans la ville, à une épidémie qui s'est dispersée et qui s'est étendue dans d'autres quartiers de la ville. Donc c'était d'interroger finalement les conditions du changement de la dynamique spatiale de l'épidémie dans l'espace urbain. Alors, et en particulier le changement entre 91, 92 et 92, 93. Donc ce passage entre 86, où on a une concentration un peu dans le sud, à une expansion en fait au reste de la ville. Alors, à partir d'enquêtes, d'analyses en fait de données, d'entretiens qui ont pu être réalisés, en fait, il faut revenir sur des questions de circulation. Donc c'est la circulation qui ici est probablement en fait. Et la circulation, elle est autour de deux quartiers centraux. Ces quartiers centraux sont en fait des quartiers en 86 accueillent l'essentiel en fait des cas de séropositivité, et deuxièmement sont aussi ceux dans lesquels les croissances ont été les plus fortes de maladies opportunistes. Et ces quartiers centraux en fait sont nés de la vague d'industrialisation britannique de la fin du 19e siècle. Ces quartiers, en fait, sont des espaces très particuliers. Alors, ce sont d'abord des espaces ce sont des pôles d'activité de la pègre indienne, et en particulier des centres d'activité de dimension internationale. En particulier, il y avait tout un trafic mis en place, en fait, dans ces quartiers. Ces quartiers centraux, en fait, accueillent un des plus grands bordels de l'Inde, qui s'appelle Kamathipura. Qui est un quartier difficile d'évaluer le nombre de la population des femmes comme des hommes d'ailleurs, autour de 100 à 150 000 personnes. Voilà, donc c'est véritablement un très très gros pôle. Et puis autour de ce quartier, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce quartier, il est construit sur des fonctions en fait qui sont associées à la pègre. Vous avez à la fois le quartier en fait qui renvoie en fait vous aviez une partie en fait de ces quartiers centraux dans lesquels vous aviez en fait les noyaux des chefs de gang, une autre partie du quartier qui sont en fait ceux qui sont au service en fait des chefs de gang, les quartiers de prostitution, et puis les quartiers, une partie d'entrepôt aussi pour tout le trafic. Donc il y a toute un espace central dans ces quartiers du centre de Bombay, qui sont effectivement liés à l'activité de la pègre indienne, et c'est avec une dimension internationale, puisque avec des relais qui vont circulation des femmes qui passent par le Népal, le Sri Lanka, voire la Thaïlande, et puis les réseaux, les chefs de la pègre indienne, habitent à Dubaï et au Royaume-Uni. Voilà, donc il y avait tout un réseau extrêmement connecté. D'une circulation, enfin des pôles d'activité de la pègre indienne, une espèce de relais local de cette pègre qui prenait une nature internationale. Autre caractéristique de ces quartiers, un espace de relégation des populations. Avec un grand nombre de populations pauvres, les nouveaux arrivants, une espèce de, les nouveaux migrants ont toujours une espèce de transition par ces quartiers centraux parce que parce que les loyers sont plus faibles, parce que il y a des possibilités de réseaux sociaux, de réseaux familiaux qui peuvent aussi aider à s'installer. Et puis également un espace avec de très fortes minorités, en particulier la minorité musulmane. On va revenir sur cette, enfin une des, enfin des les minorités musulmanes qui sont très importantes en fait dans cette partie de la ville à Bombay. Et puis également d'autres minorités, prostituées, transsexuelles, etc. Voilà. Et troisième caractéristique de cet espace, un espace de conflit. Espace très conflictuel, un espace de conflit entre gangs et police, entre mafia et police, même si parfois il pouvait y avoir des alliances, entre les prostitutions et la police, où il était régulier, où les femmes étaient régulièrement chassées. Alors c'était pas simplement, c'était pas uniquement pour chasser ces populations, c'est simplement des coups d'éclat pour organiser peut-être une mainmise un peu plus forte pour développer un blanchiment d'argent, etc. Voilà. Il y a une espèce de corruption très forte, également une présence forte de certains partis politiques, je vais y revenir. Donc une zone de conflit, donc à la fois très conflictuelle du point de vue entre des acteurs, et également un espace d'enjeu considérable. On est en plein centre de Bombay. Et par cette centralité, on va dire fonctionnelle, en plein milieu de la ville, un espace de très forte spéculation foncière. Voilà. Avec donc une espèce de conflit permanent entre à la fois les polices, le jeu économique des spéculateurs et cet espace qui est une espèce d'espace en mouvement perpétuel. Et quatrième caractéristique, un espace complètement laissé, abandonné par les infrastructures de soins. Non seulement public, ce qui est assez fréquent dans beaucoup de ville indienne, et fortiori dans le monde rural, mais surtout aussi, y compris par le privé ou par les systèmes intermédiaires. Donc un espace très faible densité des services, et puis peu d'intérêt finalement pour les populations. Alors qu'à l'époque, dans les années 90, il y avait des grandes campagnes d'information qui étaient menées auprès de populations cibles, prostituées, chauffeurs routiers, donc c'était financé par les grands organismes internationaux et par le gouvernement indien. Eh bien, dans ces quartiers-là, il y avait très peu. Or, c'était un des plus gros pôles de prostitution, peut-être de toute l'Inde, en termes de concentration de population. Donc, campagne de prévention quasi inexistante, et surtout, peut-être probablement en raison des liens entre la mafia et la police. Et puis, à l'époque également, avec la municipalité, qui était portée par un pro-nationaliste. Et puis voilà, donc un peu l'espace, les types d'espace qui étaient en interaction. Et puis un événement qui va probablement accélérer en fait ce changement entre une phase de concentration et une phase de dispersion, une espèce de crise qui va effectivement la crise qui va modifier un peu l'organisation de l'espace. On est au tournant des années 90, et une des caractéristiques du point de vue du développement des partis politiques dans les années 90 en Inde, c'est l'affirmation de mouvements nationalistes pro-hindous et anti-musulmans. Donc, qui vont être portés en fait au niveau de la fédération, de l'État central, à la fin des années 90, où vous aurez un premier ministre sera effectivement d'un parti nationaliste et pro-hindou. Donc, et au début des années 90, ces mouvements en fait qui vont qui vont s'amplifier en Inde, vont avoir des relais. Des relais dans les grandes villes de l'Inde, et en particulier à Bombay, où le maire va essayer d'intensifier toute une idéologie anti-musulmane et également anti-autres minorités. Parce que vous n'avez pas que les musulmanes, vous avez d'autres minorités, en particulier à Bombay, où la ville a été beaucoup construite en fait par des apports extérieurs, des apports de certaines populations venant des d'autres parties de l'Inde. Dans ce mouvement en fait d'amplification et de territorialisation à l'échelle de l'Inde en fait de ces mouvements pro-nationalistes et pro-hindous, eh bien il va y avoir un symbole de cette lutte qui va être en 1992 avec un grand mouvement qui va partir en fait de l'État à la frontière du Pakistan qui s'appelle le Gujarat, qui va partir du Gujarat et qui va faire toutes les grandes villes indiennes. Qui va passer porté par des chars et qui va petit à petit au fur et à mesure intégrer en fait des individus, des populations, l'objectif étant d'aller détruire une mosquée qui avait été soi-disant placée sur un ancien temple hindou. Cette mosquée, c'est la mosquée Babri, dans une ville qui est une des grandes villes saintes de l'hindouisme, qui s'appelle Ayodhya, dans le nord de l'Inde. Et ce mouvement-là va prendre une telle ampleur que la mosquée va être détruite, et que cette mosquée détruite, par le relais des médias TV, même si dans les années 90, l'Inde n'y a pas une révolution médiatique comme elle a pu connaître 10 ans après, mais en tout cas, la télévision et la radio va très faire vite naître des mouvements de vengeance, et en particulier, alors à la fois des mouvements de vengeance contre cette destruction par des pro-nationalistes hindous, mais aussi un élément supplémentaire pour que les pro-nationalistes qui tenaient les mouvements politiques locaux puissent aller attaquer les minorités musulmanes. Et Bombay va être extrêmement touché en fait par ces conflits interreligieux et en particulier dans ces quartiers centraux qui accueillaient une très forte population musulmane. Donc à la suite de cet événement, en fait à la suite, vous voyez, donc on a un espace. L'idée c'est qu'il y a un espace où il y a un espace de très fort conflit, espace également de désaffection par rapport au service, espace, une espèce de ghetto, même si le terme est peut-être pas espèce de ghetto, mais en même temps qui est très ultra connecté à l'échelle mondiale, avec le gang, les trafics, etc. Et donc espèce de forme de ghettoisation, même si le terme n'est peut-être pas le plus approprié, et en même temps, un espèce d'événement déclencheur qui va, et c'est cette série en fait de mouvements de conflits interreligieux qui vont naître en fait et qui vont se développer, qui vont s'amplifier dans ce quartier. Et les conséquences, c'est un espèce des mouvements de entre guillemets d'épuration. À la fois un mouvement d'épuration, une partie des musulmans vont aller quitter ces quartiers centraux. Donc une partie des musulmans vont quitter pour aller vers les périphéries du nord, en particulier parce que ils vont se rapprocher d'autres communautés. Donc cette espèce de ségrégation qui va se renforcer, cette forme de une forme d'homogénéisation culturelle qui va se mettre en place en particulier dans les quartiers nord de la ville, et puis ces quartiers sud qui vont aussi s'homogénéiser avec un renforcement en fait, d'un cœur, une espèce hindou avec plus forte des populations plutôt associées à l'hindouisme, et puis deuxièmement un mouvement aussi des prostituées, c'est-à-dire que la pègre va aussi installer par ce biais, va lui permettre d'installer d'une certaine manière d'autres relais de prostitution dans le reste de la ville. Donc, et va aussi pouvoir développer certaines activités dans le reste de la ville. Donc, voilà, c'était un petit peu l'analyse que j'avais faite, d'essayer d'analyser un peu cette phase de transition en essayant de la raccrocher en fait aux pratiques et comment elles se connectaient. En fait, ces pratiques, elles pouvaient être à la fois inscrites à la fois dans un niveau local et un niveau extrêmement global. Donc, en somme, on a une espèce de synergie d'interaction entre des acteurs à différentes échelles et qui a permis le passage finalement d'un stade d'une épidémie extrêmement concentrée à un mouvement beaucoup plus dispersé. Et cet événement, en fait, lié au conflit interreligieux, a probablement favorisé en fait les transformations de l'espace urbain et aussi les transformations en fait de la dynamique de l'épidémie. Et troisième point qui pourrait être à préciser, c'est que ces quartiers, si on essaie d'interroger en fait ces quartiers dans un temps beaucoup plus long, pas simplement s'arrêter finalement sur l'épidémie de SIDA des années 90, mais de regarder comment ces quartiers se sont inscrits en fait dans toute l'histoire de la construction de la ville, et on se rend compte que finalement ces quartiers ont toujours été dans des crises, des espèces de de situations, des lieux dans lesquels il y a eu des crises épidémiologiques de grande ampleur. Alors, ça a été la peste bubonique entre 1890 et 1914, et c'était ces quartiers-là qui étaient un peu les quartiers dans lesquels les taux étaient les plus élevés, où vous aviez fait des décès plus importants. Et puis, d'autres pestes buboniques 1890 et 1914, et les épidémies de la tuberculose, et puis d'autres épidémies, et puis le sida dans les années 80-90. Voilà, donc c'était un peu aussi de replacer ça dans un espèce de permanence de certains dispositifs, certaines structures spatiales, voilà, sans être véritablement déterministe, mais dire que finalement il y a peut-être des potentiels qui se réactualisent à certains moments, voilà, des espèces de potentiels, ce qu'on pourrait appeler des potentiels spatiaux qui se réactualisent, ou des formes d'organisation qui vont être des moteurs qui vont canaliser finalement certaines dynamiques. Troisième exemple, autour de la question des représentations et des controverses, et la pandémie de grippe A H1N1 de 2009. Donc un corpus d'environ 1500 articles de presse écrites, à la fois un corpus en langue anglaise et en langue française. Voilà. Donc à la fois avec une forte concentration des journaux français, bien évidemment, puisque c'est quand même la presse française domine dans le monde aussi en francophone, et dans la presse anglaise, on a une représentation assez forte des presses canadiennes, britanniques et des États-Unis, ce qui est assez logique aussi dans la structuration en fait des masses du point de vue des presses écrites à l'échelle mondiale. Alors pourquoi est-ce qu'on a interrogé les médias ? Les médias, c'est un peu un rôle d'interface, à la fois une espèce de caisse de résonance du débat des débats au sein des populations, mais aussi une espèce d'interface de transmission de certains savoirs qui pourraient être des savoirs scientifiques, et puis également le rôle de plus en plus important des médias dans l'action politique, que les médias ont un rôle à la fois de transmetteur d'une information, de l'action politique, et inversement, l'action politique fait très attention en fait à ce qui pouvait être dit dans les médias. Donc ça, c'est un élément aussi de transformation, c'est ce rôle, c'est important dans l'action politique. Également, transformation du point de vue des médias depuis une vingtaine d'années, c'est le rôle des agences de presse dans la circulation de l'information. Le poids qui devient très important et qui, pour certains, en fait, génère une espèce de discours très homogène. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéressait aussi, c'était de réfléchir, en fait, à que la grippe H1N1, c'est une des crises, c'est pas la seule. Il y a eu la crise du SRAS, qui avait été gérée par l'Organisation mondiale de la santé, mais l'Organisation mondiale de la santé, avec cette crise du H1N1, a joué un rôle très important, à la fois dans l'alerte, mais aussi dans les orientations politiques de la vaccination. Elle a été donneur d'ordre, en fait, dans les politiques de vaccination. Elle a aussi été un négociateur entre les gouvernements et les industries pharmaceutiques. Donc c'était intéressant de travailler sur cette épidémie, parce qu'elle est aussi, elle révèle aussi les transformations du point de vue des jeux d'acteurs, dans à la fois une espèce de globalisation de l'action, et puis également ces partages en fait d'action entre l'industrie pharmaceutique, le privé, et puis les services publics, et puis voilà, cette espèce de renégociation qui en fait reflète les transformations des systèmes de soins actuels. Donc ce qu'on essaie donc vous avez le corpus ici. Alors en rouge vous avez les articles en anglais et avec la variation par mois. Voilà, par semaine, excusez-moi. Donc, première week 14, ça correspond en fait à la première semaine. On a calé ça sur les alertes de l'OMS, le nombre de cas isolés par l'OMS. Donc, la ligne en tirée correspond en fait au nombre de cas relevés par l'OMS de H1N1, de grippe A H1N1. Et à côté, vous avez en fait des pics par semaine ou une variation par semaine du nombre d'articles en anglais et en français. Voilà. Donc sur la tendance, bien évidemment, si on regarde dans le détail, il y a des variations importantes, mais sur la tendance, on a à peu près en fait le même profil. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on a fait ? On a fait une analyse lexicale avec des linguistes. Alors, cette analyse lexicale, en fait, elle vise par un logiciel qui s'appelle un logiciel Alcest. Donc en fait, par rapport à d'autres logiciels, ce logiciel ou l'analyse lexicale qui est faite ici. Et on peut partir, par exemple, quand on fait une analyse lexicale, on peut partir, par exemple, d'un dictionnaire et de repérer dans ce dictionnaire, en fait, et de faire une correspondance entre un dictionnaire qui existe et les textes ou les éléments dont on dispose, les éléments textuels dont on dispose. Là, l'idée de ce logiciel, c'est finalement de construire à partir d'un texte ou du texte qu'on lui donne, de construire lui-même son propre dictionnaire. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il construit son propre dictionnaire des mots, c'est-à-dire le dictionnaire qui porte sur les textes qu'on lui donne, et ensuite, il va redécouper le texte en segments homogènes, en faisant une classification en fonction de grandes oppositions. Par exemple, s'il y a toute une partie du corpus qui parle, je ne sais pas, de l'alerte, d'articles qui portent sur l'alerte, ben, il va les grouper ensemble. Si ce sont plutôt des articles qui vont porter, je sais pas, sur les tests de vaccination, ben, il va les grouper ensemble. Voilà. Donc il fait une espèce de classification en fonction à la fois de la fréquence et du propre dictionnaire de mots. Alors, ça nous intéressait justement d'aller plutôt dans cette direction pour pouvoir construire en fait notre analyse. Donc ce que vous avez ici, c'est les différents ce qu'on appelle des classes lexicales, mais c'est des thèmes qui ressortent en fait dans le corpus français et dans le corpus anglais. Donc vous voyez, vous avez ici l'alerte à l'étiologie, donc les causes de la maladie, l'achat des vaccins, la politique sanitaire, qui sont les populations à vacciner, les populations vulnérables, l'aspect logistique de sa vaccination, le plan d'action et la surveillance de l'épidémie, en particulier le rôle de l'INVS, par exemple les corpus qui étaient de la presse française. Et puis de la même chose en anglais, on va avoir des thèmes similaires, on va retrouver l'alerte à l'étiologie, et puis des thèmes différents, test des vaccins, le coût de la vaccination, et puis des choses qui viennent un peu perturber parce que le discours, ce qui nous a un peu surpris au départ, d'une part parce que les articles anglais sont beaucoup plus longs que les articles français, donc il y a une façon, un style dans certaines presses, et puis la présence en fait de ce qu'on appelle les retranscriptions de talk show où en fait on parle et on parle aussi de la grippe parce que c'est la période, et on parle de la vaccination parce que la période, voilà. Et ce que vous avez ici en fait, c'est par mois, on a reprécisé le pourcentage en fait d'articles. Par exemple ici vous avez avril 2009, 19,1% des articles du thème alerte étiologie sont sur ce mois-ci, voilà. De même ici 13% en mai 2009. Donc en gros, l'essentiel 9 et 3 12 13 1 2 3 4 près de 50% en fait de ce qui, quand on parle de l'alerte et de l'étiologie, près de 50% c'est avril mai juin 2009. Et là c'est la même chose avril mai pour le corpus anglophone, 25 8 et 23 5 et 3 8, ça fait 50 aussi, voilà, à peu près 50. Voilà. Et donc on a reconstruit finalement ce tableau-là. Pour faire quoi? Pour essayer de regarder s'il y avait des dynamiques communes ou des dynamiques qui étaient différentes dans le processus de circulation. Et on se rend compte que finalement, il y a des dynamiques communes. C'est-à-dire qu'au même moment, la presse en francophone et la presse anglophone a à peu près parlé de l'alerte et l'étiologie. Et finalement, on va retrouver à peu près la même dynamique, à savoir, en gros, on en parle beaucoup, et puis petit à petit, en fait, on en parle peu. Pour ce qui est de la gestion politique, dans la presse francophone et dans la presse anglophone, on va retrouver avec un petit décalage, mais on va retrouver la même tendance. On commence à en parler, une espèce de pic qui va apparaître vers le mois d'octobre, novembre, décembre. Voilà, on va en parler beaucoup. Et puis après, tout d'un coup, on n'en parle plus. Et puis également sur les populations. Qui sont les populations qu'on devra vacciner? On en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais là on va retrouver à peu près les mêmes choses dans la presse anglophone, avec une espèce de pic autour du mois d'octobre, novembre, décembre. Voilà, une espèce de pic. Et puis, ça, ce sont des dynamiques communes. Espèce de, voilà. Alors, est-ce qu'on peut interpréter en disant une espèce d'homogénéisation de l'information? Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a des dynamiques communes. Et puis, après, voilà, il y a des choses différentes. Et ce qui nous interroge, et pour l'instant, on n'a pas vraiment encore de... On n'a pas de complètement de trouver de réponse, c'est finalement les profils. D'un côté, on a une espèce de gros pic, si on regarde, ça correspond grosso modo à la gestion politique dans la presse francophone, gestion politique, et surtout quand on parle des populations vulnérables et à vacciner. Et finalement, que ce soit la question des discussions sur l'achat des vaccins et puis le rôle de l'adjuvant, il y avait toute une controverse sur l'adjuvant, s'il fallait prendre tel ou tel adjuvant, s'il y avait des effets, etc. Que l'on parle en fait de la logistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va mettre en place qui va soigner, ce sont les médecins, est-ce que ça va être plutôt on va soigner plutôt dans des dispensaires, voilà, tout ce débat autour de cela, la mise en œuvre du plan d'action, et puis toute la surveillance de l'épidémie, l'INVS qui renvoie en fait des informations en disant voilà, on est à telle phase, il y a danger, il n'y a pas danger, mais tout ça se concentre un peu autour à peu près des mêmes périodes. périodes qui sont octobre, novembre, décembre. Alors que dans le corpus anglophone, on a une espèce de série, de boucle, une espèce de répétition, un peu en relais. Alors, est-ce que c'est lié à la structure même de l'information, qui est l'information, on va dire, de la presse anglophone? C'est-à-dire qu'en fait, la presse anglophone, il y a très peu d'émetteurs. Enfin, pardon, oui, il y a très peu d'émetteurs, mais il y a beaucoup de récepteurs. Et ces émetteurs, en fait, ce sont les grandes agences, des grosses agences qui balancent un texte. Et ce texte est repris quasiment systématiquement par des petites agences, voire des agences locales. Parfois en l'aménageant, parfois même sans aménager quoi que ce soit. Voilà, en l'agençant différemment ou en modifiant, mais le contenu est quasiment le même. Ou alors, c'est véritablement en fait une caractéristique en fait de propre de l'information. À savoir, est-ce que c'est vraiment une différence très nette entre le corpus anglophone et le corpus francophone. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. Mais en tout cas, ça nous a interrogés. Alors, il n'empêche qu'il y a des périodes qui semblent un peu où lesquelles les choses s'agitent, je dirais, où lesquelles vous avez en fait soit des pics, soit des variations importantes. Et là, cette période, c'est grosso modo, c'est juin jusqu'à décembre, janvier, février. Voilà, cette période-là où on a une espèce de variation très importante. Et du côté de la presse en francophone, on a également en fait l'arrivée du débat sur le plan d'action, l'arrivée du débat sur la logistique, sur la surveillance, etc. Voilà, donc cette période en fait qui est aussi qui correspond un peu à une période importante du point de vue de la gestion politique et également sur les populations vulnérables, on a voulu essayer de la regarder à travers un filtre qui est le filtre en fait de quels sont les lieux qu'on citait dans le corpus. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant du point de vue des lieux cités dans le corpus, dans les corpus. Donc on a séparé la période en deux sous-périodes, juillet, voilà, juillet-octobre. Alors, comment est-ce qu'on a découpé? On a fait tout un travail ensuite de regarder un peu les variations dans le temps, des articles à une échelle beaucoup plus fine. Donc je ne veux pas surcharger la présentation. Et puis une autre période qui est plutôt octobre jusqu'à février. Voilà. Et donc on a regardé ce qui se passe. Finalement, quels étaient les lieux cités. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait à peu près le même volume. En plus, le même volume ou en tout cas la même proportion en fait de lieux cités aux deux périodes. Alors, ce dont on se rend compte, c'est que au début, c'est-à-dire la phase, cette phase-là, juillet, juste en fait cette espèce de phase avant l'arrivée de la vaccination, c'est-à-dire une espèce de phase d'interrogation entre on compte qu'il y avait une alerte de l'épidémie, mais on ne sait pas trop quoi faire. Et ensuite, il y aura cette campagne de vaccination qui va être mise en place. Alors, vaccination qui va prendre différentes formes, ça peut être une vaccination nasale, vaccination par voie intraveineuse, etc. Intramusculaire, pardon. Pas intraveineuse, non. Intramusculaire. Alors, si on regarde un petit peu les lieux cités, par exemple dans le corpus francophone. Alors, d'une façon générale, ce qu'on note, c'est, si on regarde, ici vous avez la période juillet-septembre, et là vous avez la période octobre-février. Si on se rend compte, on a d'une certaine manière une espèce de resserrement. Le corpus francophone en juillet-septembre va beaucoup parler de ce qui se passe ailleurs. On se parle un peu de la France, on parle un petit peu de la Suisse quand on est dans la presse helvétique, on parle un peu de la Belgique quand on parle de mais on parle surtout, voilà, une épidémie qui est au Mexique, qui est aux États-Unis. Et puis, à partir du moment où on a finalement la campagne de vaccination qui se met en place, mais on va essentiellement parler de ce qui se passe chez nous. Bon, c'est pas extraordinaire ce que je suis en train de dire, c'est une espèce de on va à un moment donné quand les choses sont plus proches, on va plus en parler. Et puis ce qui est surprenant, c'est que dans la presse anglophone, c'est plutôt les phénomènes inverses. Alors on parle pas du tout, quasiment pas d'ailleurs de ce qui se passe aux États-Unis ou de ce qui se passe au Canada. Au Royaume-Uni, on va parler de ce qui se passe en Chine. Et qu'est-ce qui se passe en Chine? En Chine, la Chine est un très gros producteur de vaccins, et la Chine est en train de faire des tests, des phases de tests justement des vaccins. Et donc il y a un potentiel très important du point de vue à la fois des études et du point de vue de la production de vaccins. Et par contre, vous voyez, dans cette deuxième phase, on a une espèce d'explosion, une dispersion des points, et on va parler de beaucoup d'autres pays, et finalement assez peu de ce qui se passe, à la fois de ce qui se passe aux États-Unis ou au Canada, et aussi de ce qui se passe ailleurs. Alors dans le détail, alors, une fois si je regarde effectivement cette espèce de double dynamique, donc resserrement et diversification en fait des comparaisons. On a un deuxième élément aussi, c'est une espèce de mise à distance de la peur. Le danger, c'est chez le voisin. Par exemple, dans le corpus francophone, voilà, ici à cette période juillet-septembre 2009, on nous dit que les États-Unis sont très touchés par l'épidémie, mais que la France est prête et sera finalement assez peu touchée. Voilà. Alors, troisième chose, c'est le lien étroit entre, on va dire, épidémie et imaginaire de la dissémination et de ce qui serait autour de la saleté. Et en particulier, on a des stéréotypes qui apparaissent assez clairement. En gros, les plus fortes fréquences, c'est 4-5 pays et régions. Les plus fortes fréquences vont être pour les États-Unis et le Canada. C'est la presse canadienne qui parle de ce qui se passe au Canada, et c'est la presse des États-Unis qui parle de ce qui se passe aux États-Unis. Et puis également, elle va parler d'autres pays. Et qu'est-ce qu'elle choisit comme autre pays? Elle choisit en fait le Mexique et l'Égypte. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit grosso modo que ce qui se passe, c'est que le Canada a une vraie stratégie. Les États-Unis sont prêts. Ils sont prêts à... à assurer la sécurité du pays. Donc c'est vraiment le discours de sécuritaire, de sécurité qu'on retrouve dans cette espèce, qu'on prouve souvent en fait cette notion de sécurité dans à la fois dans la dynamique dans le discours mondial sur les épidémies, mais aussi qu'on va retrouver ici dans le discours politique de certains États. Et puis en parallèle, on va mettre des pays dans lesquels potentiellement dangereux. Et ces pays potentiellement dangereux sont dangereux pourquoi? Parce qu'en fait c'est les animaux qui sont dangereux. On va parler de l'Égypte en disant qu'il ne faut pas voyager parce qu'il y a un cheptel qui peut être dangereux et qui va assurer la transmission de la maladie. Pour le Mexique, on va accuser les porcs d'être au centre en fait du cheptel porcin, d'être au centre en fait des causes de transmission de la maladie. Donc il y a et puis on a tout un discours autour de la saleté, que ces lieux sont sales, qu'il y a une espèce de stéréotype entre d'une certaine manière des pays riches et des pays pauvres. Les pays riches seraient prêts à la réponse, ils assurent la sécurité du pays, ils sont stratèges comme le Canada. Et puis pour l'Europe, le seul intérêt finalement dans le discours médiatique, on peut dire finalement qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Puisqu'on est en sécurité, puisque la population peut se dire, finalement, le seul intérêt, c'est quoi? C'est la guerre économique entre les États-Unis et l'Europe pour les marchés du vaccin. Et c'est ce qui apparaît clairement en fait, dans le discours médiatique. Et puis de l'autre côté, vous avez les pays pauvres, Mexique, États-Unis, avec effectivement le danger. Et le danger potentiel, c'est le danger potentiel en fait, du mouvement. Voilà. Ne pas se déplacer et également le mouvement des animaux. Alors, pour terminer, qu'en est-il des villes? Puisque c'était là, je me suis un peu... Eh bien, les villes, on n'en parle quasiment pas. C'est assez surprenant. On ne parle pas des villes dans cette épidémie. Enfin, en tout cas, dans le corpus de 1500 articles que l'on a, on ne parle pas des villes, que ce soit dans la presse anglaise ou que ce soit dans la presse francophone. On en parle très peu. Quand on parle de l'épidémie, on parle de régions, on parle de pays. On va parler... par exemple, on ne parle pas de Los Angeles, on ne parle pas de San Francisco. On ne parle pas de Houston, on parle du Texas, on parle de la Californie, mais on ne parle pas des villes qui sont en fait de cet espace. Et pourtant, là j'ai pas pris les documents, mais si on regarde le nombre de cas, c'est la Californie et le Texas qui ont été certaines zones autour des Grands Lacs et du nord-est des États-Unis, ce sont les espaces qui ont été les plus touchés, en particulier les villes. Donc, alors. Quelles sont les villes dont on parle? Voilà. Alors, en France, les villes citées dans le corpus de la presse écrite française. Alors, j'ai pas relevé les fréquences parce qu'en fait, en termes de fréquences, il n'y en a quasiment pas. Voilà. On va citer toujours les mêmes, une espèce de bloc de villes. Et qu'est-ce qu'on cite comme ville? On cite les villes de la contestation. Les villes de la contestation, c'est-à-dire sur tout l'ensemble du corpus. Hein. J'insiste bien qu'on parle de l'alerte. À un moment donné, on va parler des villes à un moment très précis. C'est le moment de la contestation. C'est quand 22 villes ont demandé, en fait, les remboursements pour la vaccination. Voilà. Donc c'est cette contestation-là qui est associée, en fait, c'est cette ville de la contestation qui vont demander les frais de remboursement à l'État pour la campagne de vaccination. Ça, c'est ça qu'on repère. Et dans la presse des États-Unis, voilà ce qu'on relève. Les villes que l'on relève. Alors, ces villes, en fait, ce sont essentiellement des espèces de stéréotypes de la crise. On met en valeur la Nouvelle-Orléans, Katrina. On met en valeur, très affectée par la crise financière, New York, et puis également très affectée par la crise sociale, Pittsburgh, par exemple, qui a été très affectée, ou alors des villes complètement isolées, Salt Lake City, espèce de ville un peu... oui, il y a les Mormons, voilà, ou atypiques, où on va relever aussi Saint-Pétersbourg, en Floride. Voilà, ces espèces des villes un peu complètement, à la fois des villes très en crise ou des villes très isolées, ou très atypiques, voilà, qui sont pas du tout dans... Et encore une fois, Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas n'apparaissent pas. Ces espèces de cartes un peu... voilà. Donc, pour terminer... Ce qui m'intéressait ici, c'était de vous montrer un petit peu comment est-ce que les géographes peuvent traiter cette question. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est cette question du potentiel des espaces et des lieux. Cette espèce de potentiel qu'à un moment donné, il y a des événements qui vont déclencher ou qui vont à un moment donné être des éléments qui vont favoriser les transformations, le changement. Et il me semble qu'il y a aussi un rôle très important à le rôle des usages et des représentations, usage de l'espace et des représentations que l'on va mettre en valeur derrière cet espace. Alors, en référence, j'ai cité certains des travaux, les travaux que j'ai présentés, puis je vous ai mis une bibliographie complémentaire qui me semble assez représentative de ce qui s'est fait, en fait. Alors, bien évidemment, c'est une littérature surtout anglophone, puisque la littérature anglophone a été plutôt à la pointe, on va dire, à la fois de la géographie de la santé, même s'il y a un effet phénomène de rattrapage qui se fait aujourd'hui dans les productions francophones. Mais, d'une certaine manière, il y a eu beaucoup de travaux un peu novateurs et intéressants qui ont été produits par les Américains ou par les Britanniques. Donc, je vais citer Cliff, qui, dans les années 80, je vous ai parlé un peu de cette deuxième période de grande modélisation, Cliff et Hall, qui avaient travaillé sur l'épidémie, sur des épidémies en Islande, voilà, d'analyser de manière très quantitative. Peter Gould, qui avait travaillé sur le sida aux États-Unis, qui a une lecture extrêmement intéressante, en fait, de cette... Le premier, peut-être, vraiment géographe à travailler sur cette question du sida dès les années 80, en fait. Egerstrand, et puis Smallmind-Renner, qui s'est associé avec Andrew Cliff, qui ont toute une collection, en fait, chez Oxford, qui ont une lecture. Alors, ils sont partis à la fois d'analyse, on va dire, d'épidémies récentes, et depuis quelques années, ils se mettent à... ils travaillent sur des archives, et ils ont produit un ouvrage autour de... dans les conflits militaires. Voilà. Parce que, effectivement, le rôle des conflits et le rôle des guerres dans la propagation des épidémies est assez évident. Voilà. Je vous remercie.